Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au moment où le pape Léon XIII décidait d'instituer cette fête de la Sainte Famille que nous célébrons aujourd'hui, la Providence divine suscitait, notamment en France, un certain nombre d'exemples venant actualiser sous nos yeux, en l'adaptant à notre pays, à notre époque, venant pour ainsi dire rapprocher de nos regards cet exemple de la Sainte Famille, en suscitant de grandes familles chrétiennes avec des parents exemplaires et des enfants marchant sur leurs traces. Je pense notamment à Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou bien à Émile et Mathilde Keller, que le regretté Philippe Girard a évoqué il y a quelques années dans le sel de la terre, ou bien un peu plus tard aux parents de Mgr Marcel Lefebvre et à bien d'autres, bien sûr. Et que trouve-t-on dans ces magnifiques exemples de familles chrétiennes? D'abord, on trouve un respect rigoureux de la loi de Dieu. Louis Martin, par exemple, qui tient une horlogerie à Alençon et qui voit que tous les bijoutiers de la ville font l'essentiel de leurs affaires le dimanche, refuse d'ouvrir, lui, son magasin le jour du Seigneur. Les nombreux badauds qui se promènent dans la grande rue sont attirés par sa vitrine, et les autres magasins sont ouverts. Ils viennent parfois frapper ou sonner avec insistance à la porte de sa maison qui jouxte le magasin. Et un certain nombre d'amis se font fort d'expliquer à Louis Martin, qu'il exagère quand même, qu'il pourrait trouver une solution intermédiaire sans ouvrir franchement et publiquement sa boutique. Il pourrait au moins accepter par la petite porte, de façon privée, les clients qui insistent. Même son confesseur est prêt à lui permettre ses accommodements. Mais le père de Sainte Thérèse persiste à refuser. « Non, dit-il, le dimanche, ça n'est pas seulement Dieu premier servi, c'est Dieu seul servi. » Et il ajoute « En sacrifiant ainsi quelques bons clients, je suis sûr d'attirer sur les miens la protection d'en haut. » Et effectivement, on sait que cette protection, cette bénédiction sur sa famille, il l'a attirée, et de façon très copieuse, puisqu'on a pu dire qu'une de ses filles, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, était la plus grande sainte des temps modernes. Même intransigeance de M. Martin quand il s'agit de payer ses factures et surtout ses employés. Il met un point d'honneur à payer comptant tout de suite. Il sait que les retards peuvent avoir de graves conséquences sur les petites gens et que retarder indéfiniment le remboursement, ce qui est devenu malheureusement la règle aujourd'hui pour un certain nombre de grosses entreprises, consiste à vivre aux dépens des plus faibles que soi. Il avait même copié soigneusement dans la Bible la parole de Tobie à son fils. « Quand un homme aura fait pour toi un travail, paye-lui aussitôt son salaire. » et que la paye de l'ouvrier ne reste pas un instant chez toi. » Et il avait fait son mot d'ordre et répétait souvent cette parole. On trouve chez le foyer Martin la même générosité quand il s'agit de transmettre la vie et d'accueillir les naissances, avec toujours le même principe, respecter la loi de Dieu, la pratiquer avec zèle et lui faire confiance, c'est attirer sa bénédiction. On peut ajouter que respecter la loi de Dieu, c'est aussi la meilleure façon de préparer l'avenir, car ces exemples qu'on met sous les yeux des enfants les frappent et les marquent définitivement. La petite Thérèse racontera que lorsqu'elle était à la messe avec son père, Elle essayait d'écouter le sermon. Elle n'avait pas encore fait sa première communion. Elle essayait d'écouter le sermon. Mais ajoute-t-elle, « Je regardais papa plus que le prédicateur. Sa belle figure me disait tant de choses. Parfois, ses yeux se remplissaient de larmes qu'il s'efforçait en vain de retenir. Il semblait déjà ne plus tenir à la terre, tant son âme aimait à se plonger dans les vérités éternelles. » On remarque au passage que M. Martin donnait un bon exemple parfait, parce que justement, il n'était pas là préoccupé de donner le bon exemple, il ne se préoccupait pas du regard des autres, il était pris par Dieu. Et le bon exemple venait par surcroît, sans qu'il y pense. Et c'est généralement comme ça dans l'éducation, et aussi dans la société d'ailleurs. On n'influence pas par des postures que l'on prend, mais par ce que l'on est, ce qu'on est vraiment, ce qu'on est profondément. Et des parents qui ont une âme d'oraison, qui cherchent réellement à vivre avec Dieu, à l'honorer du fond du cœur, à lui demander son aide pour faire sa volonté, vont transmettre la piété tout naturellement, sans même s'en rendre compte, parce que leurs enfants sentiront que la prière n'est pas seulement une coutume ou une pratique extérieure, mais qu'elle a une âme. On voit ici que l'éducation n'est pas d'abord une question de méthode ou d'expérience ou de savoir-faire, même s'il en faut, évidemment. C'est d'abord une question d'âme, c'est-à-dire de vertu, parce que c'est la vertu qui perfectionne l'âme. Et d'ailleurs, c'est aussi la vertu qui donne l'équilibre. Et c'est ce qui frappe chez les époux Martin, c'est justement cet équilibre qui leur permet de donner une éducation à la fois très tendre et très forte. Entre ces deux extrêmes qui sont d'un côté la rigueur et la tristesse du jansénisme, et puis de l'autre l'indulgence excessive et l'excitation de la mondanité, ils ne font pas une sorte de mélange. Pas du tout. Ils sont au-dessus et aussi éloignés de l'un que de l'autre. D'abord, ils savent se faire respecter de leurs enfants. Ils ont le sens de l'autorité et l'exercent franchement. Aux yeux de Thérèse de Lisieux, son père restera toujours le roi. C'est le mot qu'elle aime à employer, le roi. Le roi dont une seule parole, un seul regard appelle l'obéissance immédiate. De même, Madame Martin est bien consciente que dans trop de familles, les enfants sont des idoles. Elle n'est jamais faible. Elle réprime impitoyablement l'entêtement et le caprice. Elle écrit par exemple au sujet de sa petite Pauline. Jusqu'à l'âge de 2 ans, Pauline était trop vive. Maintenant, c'est ma meilleure. Il faut te dire que je ne l'ai pas gâtée et que, toute petite qu'elle était, elle avait donc moins de 2 ans, je ne lui passais rien, sans cependant la martyriser, mais il fallait qu'elle cède. Elle est attentive à tous les détails et le grand moteur qu'elle fait jouer dans l'éducation n'est pas la crainte, c'est la générosité. Elle excelle à stimuler jour après jour la vertu de ses enfants en ranimant leur générosité. Monsieur Martin, de son côté, est très attentif à l'ordre, à la ponctualité, au travail scolaire. Il suit de très près les notes et les appréciations des professeurs et il soutient toujours leur autorité. Aucune diplomatie ne parvient à l'amener à leur donner tort. À la maison, il impose une certaine austérité et en même temps, il s'emploie à faire régner la joie dans la famille. Il excelle à animer les récréations et les veillées familiales. Il explique en son langage, « Moi, je suis Bobillon avec mes enfants. » Il a tout un répertoire d'histoires, de chansons, beaucoup de vieilles chansons françaises, de fables, de poésies, qu'il sait raconter, mettre en scène en mettant le ton et même le bruitage, parce qu'il imite à la perfection aussi bien les intonations du patois normand que l'accent auvergnat, ou bien les sifflements d'oiseaux ou les notes du clairon. Et ses enfants en redemandent. Lui veille toujours à placer une page de piété, par exemple, tirée de Don Guéranger ou bien d'une vie de saint, entre un jeu de société et un récit humoristique. Et on peut vraiment dire qu'autant il se donne à son travail, il se donne sans compter à sa famille, et c'est évidemment ce don qui est la clé de tout. Comme le dit le père Pia dans son beau livre « Histoire d'une famille », que je viens de citer largement, la charité chrétienne est l'âme de ce foyer. Et évidemment, on en revient toujours là, la charité, c'est ce qu'on vient d'entendre dans l'épître de saint Paul. Par-dessus tout, ayez la charité. Il faut remarquer qu'elle prend dans la famille Martin cet aspect du don, les parents se donnent à leurs enfants, et aussi l'aspect de la confiance. Et on peut dire qu'en apprenant à devenir père, Monsieur Martin apprend à devenir aussi de plus en plus un fils de Dieu, quelqu'un qui reçoit la grâce de Dieu et qui toujours s'abandonne à lui en lui faisant confiance. Et pourquoi ? Parce que le bon Dieu n'a pas créé la famille au hasard. S'il a créé l'homme à son image, il a voulu que la famille aussi soit un reflet de sa propre vie. C'est le grand secret du christianisme qui nous a été révélé par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu n'est pas solitaire. Ce Dieu a une vie, on peut dire une vie familiale. Et ici-bas, nos familles doivent permettre d'entrer petit à petit dans ce mystère du don, ce mystère de la confiance, recevoir et puis ensuite donner à son tour, et c'est-à-dire ce mystère de charité qui est le mystère de Dieu. Dieu est charité. Alors on peut aujourd'hui, en cette fête de la Sainte Famille, que l'on vive en famille ou non, se faire un petit examen de conscience et prendre des résolutions. Est-ce que je suis bien dans cette logique de charité et avec ces deux aspects ? D'abord, savoir recevoir. Saint Paul insiste dans l'épître qu'on vient d'entendre, « Soyez reconnaissants ». Et il redit, « Sous l'action de la grâce, chantez pour Dieu dans vos cœurs ». Rendant grâce à Dieu le Père, savoir recevoir comme un fils et pour ça être reconnaissant, premier aspect. Et puis d'autre part, savoir donner. On peut dire que ce sont les deux faces de la charité. Apprendre à bien savoir recevoir comme il faut en étant reconnaissant et puis savoir transmettre, savoir donner. C'est à ça que servent les familles. Dans une famille, les enfants commencent par recevoir. Et puis ensuite, petit à petit, ils apprennent à donner, mais ils continuent à recevoir pendant qu'ils donnent, et ça jusqu'à la mort. Et ainsi, nous progressons en charité. Est-ce que vraiment nous sommes dans cette logique de charité ? Interrogeons-nous et puis demandons à la Sainte Famille, à l'enfant Jésus, qui a voulu passer la plus grande partie de sa vie ici-bas dans le cadre familial, et qui a voulu insister là-dessus, parce que c'est presque à ça que sert l'épisode d'aujourd'hui. Notre Seigneur va au temple, c'est un peu mystérieux, mais ensuite, à 12 ans, il a pour ainsi dire la majorité, il a l'âge auquel il serait capable d'instruire, il le montre, il instruit les docteurs, et ensuite il revient, et encore pendant 18 ans, il leur était soumis. Il a voulu sanctifier la vie de famille. Donc demandons à notre Seigneur, à Saint Joseph, à la très sainte Vierge Marie, de nous faire comprendre et surtout vivre cette charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.